L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de
la
moutarde.
La littérature. Selon le Robert, la littérature se définit comme étant, comme relevant plutôt, d'œuvres écrites, dans la mesure où elle porte la marque de préoccupations esthétiques. On parle ainsi, toujours selon le Robert, de travail de l'écrivain, d'œuvre littéraire ou de ce qui ne correspond pas au réel. Irréel, donc, la littérature, vraiment. Vous écoutez L'Épluche Livre et notre sujet du jour sont les belles lettres.
Des comme, dis donc, tu me dois des ducats.
Désolé, je les ai pas sur moi.
Désiré reçoit des ducats, des tomes mystiques du duc de Dondaine, car il a vendu deux dadas à la duchesse et le duc.
Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Martine Boyer-Weinmann. Bonjour Martine.
Bonjour Deidre.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Oui, contente d'être à la radio.
Je suis très heureuse d'être dans ce beau lieu, Divergence.
Merci en tout cas d'avoir répondu oui à notre invitation. Vous êtes professeure de littérature française, autrice, vous êtes agrégée de lettres modernes, spécialiste des écritures biographiques et autobiographiques contemporaines. Parlez-nous, s'il vous plaît, un peu de vous, de votre parcours.
Alors, je suis, pour être exact, professeure émérite de littérature, c'est-à-dire que officiellement, je suis à la retraite désormais, mais un statut un peu à part qui consiste à continuer à avoir des doctorants, hein, à les encadrer à l'université, et puis à continuer à avoir ce qu'il y a de plus beau peut-être dans l'enseignement, c'est-à-dire la possibilité d'écrire justement des articles, de participer à des colloques. Après-demain, je vais participer à un colloque ici à Montpellier sur un auteur contemporain, Santiago Amigorena. Donc mon parcours, en fait, au départ, j'étais professeure de lettres classiques plutôt, agrégée de lettres classiques. Et puis, après une pratique d'enseignement au collège, lycée, devant des étudiants étrangers, je me suis dit que je vais faire une thèse en littérature moderne et contemporaine. Ce que j'ai fait sur ce que j'ai appelé la relation biographique et qui a donné lieu à un livre, la relation biographique, c'est-à-dire ce qui se joue entre un biographe, par exemple, et l'auteur, le biographié, un auteur dont il parle, ou bien ce qui, dans un texte littéraire, s'écrit, une autobiographie. Voilà, donc je suis spécialiste de la littérature, à la première personne, du XXe et du XXIe siècle. Voilà.
Quelle est votre relation personnelle à la littérature?
Oh, ma relation personnelle à la littérature, elle est multiple, elle est riche, elle est ancienne. J'entendais tout à l'heure la définition reprise du Robert et peut-être déduite du Robert, comme quoi la littérature, c'était surtout de l'écrit. Je prendrais volontiers aussi la définition de Barthes, hein, de Roland Barthes, qui disait que la littérature, c'est ce qui s'enseigne. Et je serais un petit peu en désaccord aussi avec, c'était sous une forme interrogative, la littérature, c'est le réel. Ma définition, mon goût, ma relation, si vous voulez, c'est une relation à la fois passionnelle, mais aussi une relation de corps à corps avec la littérature en train de se faire, soit quand je la lis, soit quand il m'arrive d'essayer d'écrire quelque chose. Donc la littérature, et ce n'est pas que quelque chose de contemporain. C'est du réel, c'est en prise avec le réel. On peut l'entendre de deux façons. Hein. On peut l'entendre à la manière d'un Proust qui disait que la vraie vie, la vie vraiment éclaircie, c'était la littérature. Mais aussi, on peut l'entendre dans un sens plus contemporain, cette fois-ci, celle que, depuis 1980, on a pu désigner comme un retour au réel. Je donnerai l'exemple d'un écrivain comme Claude Simon qui a relancé ce rapport au réel. Qu'est-ce que le réel ? C'est nos émotions, c'est la guerre, c'est le récit des épreuves, c'est la douleur, c'est ça le réel.
C'est un réel par la fiction ?
Un réel par la fiction ou un réel par, alors, par le témoignage, par une écoute autre du monde. Hein. J'entends souvent des historiens, par exemple, très sensibles à la littérature. Je citerai le nom de Patrick Boucheron, qui est un de nos plus grands historiens contemporains, professeur au Collège de France, qui... s'empare, hein, beaucoup d'historiens s'emparent de la littérature, non pas comme une illustration, mais parce qu'ils disent le réel. Par exemple, je me souviens de Boucheron qui, à travers la littérature, appréhendait les attentats qu'il y a eu en 2015, des événements historiques aussi, où on peut citer l'exemple de Modiano avec Dora Bruder. J'entendais des historiens se dire, là, il a vu quelque chose qui sont justes, historiquement justes, mais qu'un historien n'aurait pas pu poser. C'est le propre de la littérature. Donc, fiction, mais aussi sensibilité, écoute, mise en rythme, et puis peut-être quelque chose de commun avec le cinéma. Le montage, la littérature, c'est un montage.
C'est un montage. Très bien. Donc, nous avons bien fait de repartir d'une définition de base pour ensuite explorer plus en profondeur, la définition même de la littérature. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez pensé, où vous avez compris que la littérature et les livres seraient ou seront une part de votre vie, que c'était quelque chose de constitutif de votre être?
Alors, c'est extrêmement ancien, je pense, mais j'ai un souvenir précis j'avais une dizaine d'années, je crois, 10-11 ans, et je me voyais... Enfin, on m'avait offert Balzac, Génie Grandet. et je me revois en train de dévorer Eugénie Grandet, sans obligation. Ce n'était pas l'école qui m'avait imposé cette lecture. Ce n'était pas l'école, ce n'est pas une lecture prescrite. Mais j'étais déjà envoûtée. Et je dois dire que Balzac est pour moi aussi un des auteurs qui résiste au temps, qui résiste au présent, qui est d'une modernité absolue, aussi bien par ses petites études, ses contes fantastiques, qu'évidemment par les grands romans que nous connaissons, comme Les Illusions perdues, etc.
Très bien. Et votre parcours professionnel, donc vous avez un rapport privilégié à l'enseignement, vous avez un rapport certainement privilégié aux étudiants. Comment tout ça a fait sens? Comment les pièces du puzzle se sont imbriquées professionnellement parlant pour vous?
Alors c'est vrai que j'ai eu un parcours à la fois assez typique, puisque j'ai pu faire la chance de faire l'école normale supérieure, donc j'étais destinée à quelque chose, mais aussi j'ai un peu résisté à ça, c'est-à-dire que j'avais envie d'enseigner en collège, en lycée, je m'y suis frottée dans des conditions parfois pas faciles, dans une région que je ne connaissais pas, au Havre. Et puis après, j'ai pu enseigner à l'étranger. Et à un moment donné, j'avais une trentaine d'années, j'ai eu la possibilité de changer un peu de métier ou de faire quelque chose de parallèle, à savoir la direction d'un institut culturel à l'étranger. Et donc là, cette expérience qui était nouvelle, pas uniquement de l'enseignement, mais de la gestion, gestion de personnel, invitation d'auteurs, organisation de spectacles, m'a fait prendre conscience que j'avais peut-être des talents autres que celui d'enseigner, que c'était parallèle. Et ce n'est qu'après, en revenant en France, que je me suis dit, là, je vais faire une thèse. Je crois qu'en fait, il faut une certaine maturité. Bon, aujourd'hui, les étudiants, ils font des thèses un peu dans la foulée de leur master. Mm-hmm. Mais je trouve que ce n'était pas mon cas, même si j'aurais pu le faire. Et j'ai bien aimé de passer par d'autres expériences avant de revenir et de franchir ensuite les étapes d'une carrière classique de l'enseignement. Mais je trouve que c'est bien d'aller voir ailleurs.
Et de prendre son temps aussi.
Oui, aussi.
Besoin de prendre du recul pour construire. Donc, vous avez écrit plusieurs livres, sauf erreur, le premier en 2009, « Lire Milan Kundera ». C'est bien ça, aux éditions Armand Collin.
Oui, alors j'en ai écrit peut-être un petit peu avant ma thèse. En fait, bon, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages académiques, mais qui étaient publiés aussi par des maisons d'édition non académiques. C'était La Relation Biographique, justement, en 2005. Et puis après, vous avez raison, c'était entre l'académique et puis la vulgarisation scientifique. Je me suis un peu spécialisée sur cet auteur, Milan Kundera, que je continue à beaucoup aimer.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ses écrits ou dans sa vie ?
Alors, beaucoup de points. D'abord, une ironie flamboyante, une histoire aussi, la plaisanterie qui nous raconte quelque chose d'un monde qui était sous le rideau de fer, une langue, même si elle était traduite, et puis ensuite il a écrit en français, une langue éblouissante. Donc l'ironie, l'humour, la capacité à faire de la philosophie en fiction. Mmh. Et non, c'est pas un roman philosophique au sens strict, ce n'est pas de la philosophie un peu verbeuse, mais c'est aussi un art de s'attacher à certaines émotions, la pudeur, l'impudeur, le corps. Donc il y a des portraits de corps qui sont absolument remarquables, et une grande diversité aussi d'écriture. Il y a des nouvelles, il y a des romans, des différences de taille, des changements de langue. J'ai trouvé cela très virtuose, et aussi allant parfois aussi contre-courant de l'époque aussi. Il fait des romans 18e siècle, etc. J'aimais bien cette amplitude
dans l'écriture et dans le style.
Oui, tout à fait.
Vous avez écrit aussi un livre sur la vieillesse, Vieillir, dit-elle, ou Vieillir au féminin. Vous avez écrit ça en 2013, à une époque pas si lointaine, mais où on s'intéressait assez peu à ces sujets-là, d'un point de vue féminin. Est-ce que vous pouvez nous en parler en une ou deux minutes ?
Vous avez tout à fait raison. En 2013, ce n'était pas encore aussi à la mode, ou en tout cas dans l'air du temps, qu'aujourd'hui, où les récits foisonnent. Et là, je me rends compte qu'en publiant ce livre, il continue à avoir beaucoup de succès aujourd'hui. Et je suis souvent sollicitée sur ce sujet. Je vais coordonner une revue savante, un peu là-dessus, sur la fiction contemporaine du vieillir au féminin. Mmh. Alors j'ai voulu commencer au XXe, avec Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, bien sûr, et prendre quelques études de cas. Et aussi une autrice que j'affectionne beaucoup, qui est Hélène Cixous, qui est quand même une figure majeure d'un certain féminisme, et qui, confrontée au vieillissement long de sa propre mère, qui est morte à plus de 100 ans, nous dit des choses fondamentales. Le vieillir n'est pas forcément un naufrage, comme on a pu le dire, mais c'est aussi une capacité de rebond et d'énergétique nouvelle.
Très bien. Nous nous intéresserons à la suite de votre bibliographie en seconde partie d'émission. Petite pause musicale. Donc, vous avez choisi de nous partager aujourd'hui le titre « La vie de Cocagne » par Jeanne Moreau.
Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un peu petit clocher de cocagne que j'entendrai tinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. On verrait chaque soir le tourbillon fou du monde devant la télé, mes chats, mes chiens roupillant à nos pieds à poings fermés. Et qu'au dehors le vent d'hiver se donnerait un mal de chien pour faire plier les peupliers que nous aurions plantés à deux, et les soirées d'automne couleraient douces et monotones. Et chaque nuit on se dirait chérie, on réveillonne. Aïe, quelle petite vie de cocagne, l'hiver tout comme l'été, je pourrais pas m'enlacer. La nuit, le jour dans ma campagne, ni vu et ni connu, dans mon petit coin perdu. Mais v'là qu'il faut me tirer, me barrer, me tailler, foudre le camp. Je n'ai même pas le temps de m'oublier un instant loin du présent. Adieu mes chats, mes petits chats, mes chiens, adieu le vent. Ce vieux fauteuil au coin du feu, je m'y serais jamais planqué à deux. Ces bêtes, ce rêve que je fais chaque jour dans ma petite auto, en venant du bureau, qui pourrit ma vie de nostalgie.
Nous sommes en compagnie de Martine Boyer-Weinmann et nous causons littérature aujourd'hui. Petite indiscrétion cependant, votre vie, Martine, est-elle une vie de cocagne? Est-ce que vous la définissez comme un temps heureux?
Alors, déjà, je suis native d'une région qui s'est elle-même baptisée pays de cocagne, hein, pays du pastel, dans le Tarn. Alors, une vie de cocagne, évidemment, le titre de Jeanne Moreau est aussi un peu ironique, puisque c'est une projection, un désir plutôt qu'une réalité. Mais je considère, oui, que ma vie est relativement heureuse, et puisque je fais ce que j'aime, hein, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait ce que j'ai aimé, et je continue à avoir cette liberté. Donc, je considère qu'elle est heureuse.
C'est merveilleux. En 2019, vous avez écrit un livre publié chez Champvallon, Le vestiaire de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup.
Je vous remercie. Je vous remercie et je remercie la librairie Les Pluches Livres de m'avoir aussi invitée pour en faire une petite présentation. Donc, c'est un livre qui est né d'un enseignement, parce que je pense que la littérature, même la littérature joueuse, comme j'ai voulu la pratiquer avec le collègue qui l'a coécrit avec moi, se nourrit de l'enseignement. Donc on a proposé un cours à des étudiants du tiers-temps, comme on dit aujourd'hui, par euphémisme, mais des grands lecteurs, autour des rapports qu'il y a dans la littérature, et ce depuis le XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'aujourd'hui, entre le vêtement, les gestes, la démarche, là je repense à Balzac qui a écrit un très beau traité de la démarche, les attitudes, les comportements et la littérature, entre le vêtement et la littérature. Donc on s'est donné une espèce de contrainte qui était en 100 petites unités, que nous avons appelées des confections, par clin d'œil évidemment aux vêtements, au monde des vêtements. Je précise, c'est le vêtement, ce n'est pas la mode, même si la mode en fait partie. On a essayé de décliner le vêtement ou l'apparition du vêtement, sa disparition, faisait à la littérature, aussi bien dans le monde romanesque qu'au théâtre, par exemple, le travestissement, le changement de genre, et aussi d'un point de vue très narratif, les coups de théâtre, les scènes d'amour, bien entendu, l'apparition soudaine liée au fétichisme, par exemple. Alors, les exemples sont innombrables, mais on a essayé de le faire avec beaucoup d'humour, avec mon coéquipier. avec de l'humour, avec de la science aussi, puisqu'on s'est penché sur les dénotations de couleurs. Voilà ce que la littérature peut faire. Des types de couleurs qui sont des couleurs historiques, qu'on peut trouver dans des tableaux aussi, et que la littérature nomme et qui disparaissent.
Comme quoi ? Donnez-nous un exemple.
Alors, un exemple qui fait beaucoup rire, c'était au XVIIIe siècle, la couleur caca dauphin. Bon, évidemment, c'est pas terrible comme nom, hein, mais c'était lié au dauphin de la royauté. Donc, voilà, les coiffures, pareil, et donc on trouvait cela dans les textes. On s'est beaucoup inspiré aussi de la mode, de la presse. De la presse qui, au 19e, presse de mode qui s'adressait essentiellement aux femmes, mais qui proposait donc quelqu'un comme Mallarmé. Ce n'est pas rien quand même, Stéphane Mallarmé a écrit un journal. Il a fait 6 numéros qui s'appelle La dernière mode, avec toutes les entrées. Toutes les entrées. Donc, ça veut dire que ça intéresse la littérature.
Mmh, tout à fait. Hein,
ce travail du mot, cet artisanat, vous parliez d'artisanat de l'écriture. Et on monte un vêtement comme on monte une robe. Hein, ça, c'est Proust qui le disait, ou comme une cathédrale. Donc, il y a dans cette recherche de perfection, d'ajustement, de couture, de montage, quelque chose qui relève d'un effort, d'une concentration, et puis c'est pour quelqu'un, souvent, hein, voilà. Et il y a de très belles choses. On a aussi intégré du cinéma, des scènes de cinéma, des scènes de la presse, du cinéma, de la littérature.
Bon. Comme quoi, oui, en effet, vraiment, la littérature n'est pas qu'une fiction, une belle fiction. Pour continuer sur le thème de la littérature, justement, en 2023, vous publiez votre premier roman, enfin vous faites publier votre premier roman, qui est un roman historique, Le siècle d'Irène, donc toujours chez Champvallon. Racontez-nous comment, parce que vous semblez quand même écrire, donc toujours avec ce bagage littéraire et culturel qui est quand même présent et qu'on ressent, alors je n'ai pas lu tous vos ouvrages, notamment les deux premiers, mais qu'on ressent, qu'on sait présent, à quel moment la bascule s'est faite vers la fiction historique, en fait ? Enfin, comment vous en êtes arrivé à ce livre ?
Alors, il s'agit d'un récit, je dirais plutôt qu'un roman, un récit que j'appellerais un récit d'enquête documentée, dans lequel j'intègre des réflexions de type littéraire, et je donne la parole aussi à des écrivains. Je pense à Simone de Beauvoir, je pense à Sebald, l'auteur allemand, mais pour raconter la vie de quelqu'un qui existe vraiment et que j'ai connu, d'une personne de la famille allemande de mon mari très exactement. Et donc j'ai essayé de raconter une vie étonnante, puisque j'avais travaillé sur la vie, sur la vie des autres, je me suis dit je vais prendre cet exemple de cette femme que j'appelle Irène. C'est une vie de femme, donc il y a une espèce de continuité, qui a vécu très longtemps, c'est aussi une continuité, et il se trouve que qui a vécu dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis beaucoup, en France aussi. Et cette femme a laissé beaucoup d'archives personnelles que la nécessité lui a demandé de faire, puisqu'elle est contemporaine du nazisme. Elle était née en 1921 et elle a surfé sur toutes les vagues historiques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, de la période. Donc elle a dû faire pour émigrer, elle a dû faire des rapports, elle a dû changer de vie. Et cette personne qui parlait 3 langues avait une personnalité éclatante. Et donc, grâce à ses enfants, j'ai pu avoir accès à toutes les traces. Et ça m'a intéressé de comparer ce qu'elle disait de certains pays, par exemple les États-Unis, à ce que des voix littéraires à la même époque disaient. Je pensais à Beauvoir, par exemple, qui a voyagé en 1947-48 en Amérique, l'Amérique au jour le jour, magnifique texte de Beauvoir, et je regardais ce que cette personne, Irène, écrivait de l'Amérique à la même époque, venue, elle, d'Allemagne dénazifiée, en cours de dénazification. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'intérêt à aller du côté de l'histoire, aller au côté d'archives familiales. Mmh. Voilà, c'est un récit d'archives. Et de ponctuer ce récit qui est chronologique, si on veut, de regards extérieurs, de le nourrir par des parallélisations extérieures.
D'accord, très bien. En tout cas, ça se lit... ça se lit comme un roman. Ça se lit plutôt bien. Quelle est votre actualité? Quels sont vos projets actuellement? Je crois que vous prévoyez des ateliers d'écriture, quelque chose autour des parfums. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment?
Donc, j'aime beaucoup... je commence à me lancer dans l'activité des ateliers d'écriture. Là, dans votre librairie si ouverte aux propositions, les Pluches Livres, je prévois donc de faire au mois de mars un atelier autour des odeurs, des parfums, dans la mesure où c'est corrélé aussi à un livre en cours qui s'appellera peut-être Odorama, quelque chose comme ça, qui portera sur les odeurs en littérature. Après avoir exploré le tissu, les matières, je m'intéresse beaucoup à l'odorat, à ce sens lui-même un petit peu disqualifié. Et donc, écrire les odeurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il y a des odeurs sans odeur. J'ai découvert un texte là qui parlait d'odeurs sans odeur pour parler de l'odeur de printemps, par exemple, qui est difficile à nommer, à qualifier. Et donc là, le 8 mars, à l'Épluche Livre, je ferai une petite proposition d'écriture.
Pour terminer cette émission, est-ce que vous auriez des livres à nous conseiller, Madame Boyer-Weinmann?
Oh, beaucoup de livres.
Pas tous.
Beaucoup de livres. Non, bien sûr. Je ne parlerai pas forcément de la rentrée littéraire, puisque même si dans la rentrée littéraire, j'ai adoré le livre Archipel d'Hélène Gaudy. C'était vraiment ma belle découverte cette année. Deux titres seulement. Un titre qui est devenu le classique de la littérature du XXe, de Georges Perec, La vie, mode d'emploi, qui porte comme sous-titre roman au pluriel et qui est un roman total, fabuleux, dans lequel on peut voyager dans cet immeuble haussmannien à tous les étages en étant toujours surpris. Matrice donc de beaucoup d'écrivains contemporains, Roubaud et puis Mauvignier, etc. Et puis, et là j'y tiens bien, une autrice de Montpellier, Jeanne Galzy, il existe depuis peu une plaque Jeanne Galzy dans la rue Jean Moulin, une femme qui a eu le prix Femina 1923, qui était très très brillante, qui a écrit beaucoup de romans de poésie et qui a bénéficié l'année dernière, à l'occasion de son centenaire, d'une republication. Et je conseille Les Allongés dans la collection L'Imaginaire Gallimard, expérience personnelle. Elle a été très malade, elle avait la tuberculose, elle était à Berck-sur-Mer dans le Nord pour se soigner. Elle a survécu à ça, elle a vécu jusqu'à 93 ans.
Ah oui.
Et elle a commencé sa carrière littéraire très tôt, dans les années 20. Et elle l'a ensuite, à 80, 90 ans, fait une autobiographie en plusieurs tomes, etc. Elle est morte à 93 ans, donc ça, voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un de lumineux. C'est un très beau témoignage sur la maladie, mais pas misérabiliste du tout. Un très beau texte précédé de deux préfaces d'autrices contemporaines, Alice Zeniter et Monica Sabolo.
Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci pour votre présence aujourd'hui, Martine Boyer-Weinmann. Merci aussi à vous, chers auditeurs. Et n'oublions pas, comme l'écrivait Jules Renard dans son journal, que tant qu'il nous reste des livres à lire, nous avons la certitude d'être encore heureux. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Les Pluches Livres.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde.